Première partie. Chapitre 1. Ce rêve n'avait ni queue ni tête. Il assistait à une pièce de théâtre, apparemment jouée par des lycéens. Les siens, d'ailleurs. Ceux de la première 4, dont il était le professeur principal. On donnait l'opéra de Katsu, de Kurt Weill. Le bandoneon soufflait les premières notes de la complainte de Maki. Il regarda de plus près. Les élèves, tels des pantins, étaient affublés de fils. Manipulés contre leur gré, ils s'activaient aux quatre coins de la scène avec une maladresse confondante. Deux jeunes femmes étaient assises à ses côtés, chacune un bouquet de fleurs à la main. À sa gauche, Junko Taura, l'infirmière du lycée. À sa droite, Satoko Mizuoshi, la psychologue scolaire, dont le regard soucieux demeurait rivé à la scène. Les adolescents entravés s'acquittaient de leur rôle avec diligence, la plupart d'entre eux en tout cas. Certains se mouvaient de leur propre volonté, troublant le bon déroulement du spectacle. Agacés, il leur lança des craies qui ratèrent leur cible. Alors il pointa sur eux un fusil de stand de tir à la fête foraine et fit feu. Il faucha un élève, puis un autre. Les victimes, plates comme des silhouettes en carton, s'abattirent pour sombrer dans les entrailles infernales de la terre. Le public était hilar. Fier de son adresse, il se tourna vers ses collègues, sûr de lire l'admiration dans leurs yeux. Autant pour lui, les jeunes femmes semblaient insensibles à ses prouesses. Il y avait du remous dans les premiers rangs. Le proviseur et son adjoint, suivis d'une ribambelle de profs, venaient d'apparaître en gesticulant. Qu'est-ce qui pouvait bien les contrarier à ce point ? Leur va-et-vient incessant parasitait le spectacle. Il décida de viser dans leur direction. Après quelques tirs, le décor changea brutalement. Il volait en plein ciel. Ce n'était pas la première fois qu'il se voyait voler en songe. L'issue de ces épisodes était immuable. À mesure qu'il tentait de prendre de l'altitude, une force mystérieuse l'attirait vers le sol, puis, quelques centimètres avant le crash, le maintenait en lévitation. Or, cette fois, il volait bel et bien, et le paysage qui défilait sous lui était hallucinant de réalisme. À l'est, le ciel trempait dans une clarté diffuse. Il dominait de plusieurs centaines de mètres les quartiers nord de la ville. Un seul coup d'œil lui suffisait pour embrasser les collines qui séparaient Machida de la commune voisine, Tama. Il se trouvait à l'aplomb du lycée Shinko Gakuin, situé dans le parc des ruines du château d'Onoji. L'établissement, composé d'un bâtiment principal et d'un gymnase relié par une galerie, formait un U vu du ciel. Il mit le cap sur le sud. Un îlot d'immeubles apparut au-delà du mont Nanakuni, mais il n'en vit pas plus. Il commençait à perdre de l'altitude. Bientôt, il put détailler les habitations en contrebas. Une succession de bâtisses traditionnelles, étriquées et vétustes, dont les tuiles manquantes étaient indéfiniment couvertes de bâches bleues par mesure d'urgence temporaire. On y était enfin. À moitié conscient, il reconnut la maison. Sa maison. Il ne l'avait jamais contemplée de si haut. Néanmoins, le tableau lui semblait étrangement familier. Son champ de vision se rétrécit pour se concentrer sur l'étendoir du jardin, où il atterrit en douceur. Il ouvrit brutalement les yeux. Un corbeau croassa.
« Croix ! Croix !»
Le réveil indiquait 5 heures à peine. Seiji Asumi bâilla sans décrocher la mâchoire. Pourquoi diable fallait-il qu'il soit tiré du lit tous les matins à une heure pareille ? Inutile d'essayer de se rendormir. Les oiseaux persisteraient à l'appeler tant qu'il ne leur aurait pas prouvé qu'il était debout. C'était presque un honneur d'être l'objet d'une telle obstination. Il se leva de son futon et fit quelques étirements avant de se rendre dans la véranda pour jeter un coup d'œil au jardin. Ils étaient là. De leur perchoir, 2 énormes corbeaux le fixaient, imperturbables. Même à Machida, où les représentants de l'espèce en imposaient, ces deux-là faisaient office de champions. Pour une raison inconnue, ils semblaient affectionner la vieille bicoque que louait Asumi et y revenaient chaque jour. Il les avait baptisés Hugin et Munin, à l'instar des corbeaux messagers du dieu Odin dans la mythologie nordique. Huginn était un remarquable spécimen de corbeau à gros bec, qui n'aurait pas eu à rougir de la comparaison avec un grand corbeau de Hokkaido. De taille sensiblement plus petite, Muninn devait être une femelle. Au passage de leurs membranes nictitantes, leurs globes oculaires se couvraient de blanc. L'œil gauche de Muninn, peut-être crevé, gardait constamment cette teinte laiteuse qui ajoutait à son allure sinistre. Un seul de leurs cris suffisait à faire battre en retraite n'importe quel chien des rues. Huginn et Muninn soutenaient son regard sans sourciller. Tenter de les effaroucher en élevant la voix n'avait aucun effet. Feindre de leur lancer un projectile imaginaire non plus. Cependant, il suffisait qu'ils mettent discrètement la main sur une solide balle de baseball pour que les indésirables s'envolent dans un concert de cris indignés qui résonnaient comme des injures. C'était presque devenu un rituel entre eux, mais la capacité d'observation des oiseaux ne laissait pas de l'étonner. Il se brossa les dents et s'aspergea le visage d'eau froide afin de dissiper les dernières torpeurs du sommeil. Alors seulement, son rêve lui revint en mémoire. Inutile de s'apesantir sur la première partie. Dans la seconde, il aurait juré que son esprit avait fusionné avec celui d'un corbeau. Depuis son emménagement dans cette maison, un mois plus tôt, il avait élaboré stratégie sur stratégie pour chasser le couple d'emplumés. Celui-ci avait déjoué ses plans avec une intelligence redoutable. De là à leur admettre un don de télépathie, on disait que les oiseaux étaient les descendants directs des dinosaures. Comment savoir s'ils ne s'apprêtaient pas à reprendre la suprématie aux mammifères, grâce à des pouvoirs insoupçonnés qu'ils affûtaient dans le plus grand des secrets? À bien y réfléchir, cela semblait peu probable. Le rêve l'avait plongé dans une temporalité confuse. Il avait sans doute entendu un premier croassement durant son sommeil, ou perçu un autre signe annonciateur de l'arrivée des volatiles, et de là son esprit avait lui-même élaboré toute la mise en scène aérienne. Quant à comprendre comment il avait généré les images de Machida vues du ciel, dont il n'avait aucun souvenir réel, c'était une autre histoire. Asumi vivait seul et ne s'encombrait pas de convenances. Le survêtement dans lequel il se glissait sitôt rentré du travail lui servait aussi de pyjama, ce qui s'avérait pratique à bien des égards, car que faire à une heure pareille, sinon aller courir? Il se rappela au dernier moment le sac en plastique qui l'attendait dans le réfrigérateur. Il le fourra dans son sac banane, enfila ses Nike et sortit. Les vols par effraction étaient monnaie courante à Machida. Mieux valait ne pas oublier de donner un tour de clé. Il avait à peine esquissé quelques foulées que des aboiements furieux retentirent. Toujours Momo, le bâtard de Yamazaki, à deux maisons de chez lui. Le chien, agréable avec la plupart des riverains, s'était pris dès le début d'une aversion profonde pour Asumi. Le fait qu'il réveille tout le quartier au moindre geste n'avait rien de réjouissant. Mais comment se plaindre? Le propriétaire du chien était également celui de sa maison. Qu'à cela ne tienne, il allait s'occuper de Momo. Il tira du sac en plastique un morceau de viande qu'il balança par-dessus le portail. Le chien cessa de japper, renifla l'offrande et la dévora finalement à grands coups de dents. Alors, Momo, on se régale? La friandise était improvisée à partir d'un steak de bœuf japonais acheté pour le dîner. Un vrai festin pour un clébard. Le pot de vin semblait avoir touché dans le mille. Pour autant, le regard en biais du chien indiquait qu'il en faudrait plus pour le convaincre. Tenter une quelconque flatterie était probablement prématuré. Asumi reprit sa course en sifflotant. Il fit le tour des collines et espaces verts environnants à une allure de marathonien avant de repartir en direction de la maison. Son jogging était trempé de sueur. Monsieur Yamazaki, sous son porche, pratiquait des étirements de son cru.
Bien le bonjour, monsieur Asumi.
L'homme aux sourcils aussi blancs que ses cheveux n'en était pas moins vigoureux et cela se ressentait dans sa voix.
Bonjour. Quelle forme, quelle forme! Ah, je vous admire. Et puis, comme on dit, hein, être prof, ça demande une santé de fer, pas vrai? Je ne vous le fais pas dire. Mieux vaut ne pas se laisser aller quand on est face à des gamins pleins d'énergie.